vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre. La plante du diable. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Fait son lit, il va à son bureau, il ouvre un livre de maths. Et un cahier. Il se dit, là, en étudiant, au moins, je suis tranquille. Je sais ce que j'ai à faire. Je suis tranquille en étudiant. Demi-heure plus tard, l'on sonne à la porte. Il entend sa mère qui va ouvrir. Oh, bonjour Mathieu. Entrez. La porte qui se referme. Alexis s'arrête d'étudier et écoute. Je viens prendre des nouvelles d'Alexis et lui dis, il va bien ce matin. Merci de t'inquiéter pour lui. Il est dans sa chambre à étudier. Tu peux aller le voir si tu veux. Oui, je veux bien. Alexis se lève. Va ouvrir la porte de sa chambre. Mathieu va à lui. Mathieu lui dit, salut. Salut, entre. Mathieu entre. Alexis ferme la porte. Alors tu vas mieux? Alexis lui dit. Oui, je te remercie. Ne sais pas pourquoi, mais l'envie de se confesser à son ami. Lui dire ce qui s'est passé hier. Il lui dit, viens, viens t'asseoir. Il le fait asseoir sur le rebord du lit. et lui à ses côtés. Alexis lui dit, je sais pas ce qui m'est arrivé hier. J'étais comme dans un brouillard, sorti du monde. Mathieu lui dit, c'était ton mal de tête. Alexis lui dit, non, le mal de tête, en réalité, je ne l'avais pas vraiment. Ou plutôt, j'avais pas mal à la tête, mais à mon âme. C'est parce que ma mère avait dit des choses qu'il ne fallait pas. Alors, je n'arrivais pas à sortir de ma tête, dans ma tête, ce qu'avait dit ma mère. Et puis, à cause de ça, c'était moi qui m'éloignais de vous. Et je vous accusais de le faire, de m'éloigner de moi. J'étais tellement triste et malade. Je voulais mourir pour que vous me regrettiez. Oui, que vous me regrettiez et m'aimiez. Je pensais vraiment d'une façon idiote comme un gosse, un vrai gosse. Et lorsque je vous ai dit que j'avais mal à la tête et que vous m'avez cru, là j'ai été heureux parce que vous vous occupiez de moi. Voilà en gros ce qui s'est passé. J'arrive pas à savoir pourquoi j'ai agi comme ça. Mathieu lui dit, tu aurais dû me le dire que tu te sentais seul. Alexis lui dit, mais je croyais que tu étais avec eux. Et puis, j'étais jaloux parce que les autres te parlaient et que tu semblais heureux avec eux. Mathieu lui dit, de Julien, des autres, oui, je te voyais heureux avec eux, très heureux. Mathieu lui dit, mais tu vois, je suis là. Et puis hier, tu m'avais qu'à me dire que tu n'étais pas bien et que tu voulais que je sois près de toi. Et tu demandes, qu'est-ce que vont penser les autres de ma conduite? Mathieu lui dit, ils penseront que tu n'étais pas bien. Et puis, tu leur avais dit que tu avais mal à la tête. Ne te fais pas de soucis pour eux. Tu as été malade. Et il lui dit, oui, mais je me demande pourquoi je me suis conduit de cette façon aussi idiote. J'avais vraiment envie de mourir pour que l'on m'aime. Et lorsque vous m'avez plaint, ma gorge s'est desserrée. Et j'ai vu envie de pleurer. Je me suis senti après épuisé. J'ai eu envie de dormir. Mathieu lui dit, la fatigue sûrement, ne parle plus à cette journée, ce n'est rien. Et puis des journées comme celle-là, nous en aurons d'autres. Et ici lui dit, le plus terrible ou drôle, c'est qu'après j'ai eu vraiment mal à la tête. À cause de mon mensonge, j'ai pas mangé, ça m'a donné mal à la tête, pour de vrai. Là j'ai été bien puni. D'avoir agi comme ça vis-à-vis de vous. Mathieu lui dit, tu vois, tu as été puni. Alors la chose est close. Alexis lui dit, je ne te parle pas de mon envie de pisser. Mathieu lui dit, arrête ta confession. Elle va trop loin. Je t'absous de tout ce que tu as fait, de tous tes péchés. N'en parlons plus. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Je révise. Mathieu lui dit, eh bien, révisons. Et ils ont fini la matinée en révisant. L'après-midi, Alexis a continué à réviser et à dormir. Il y a des envies de sommeil, comme une grande fatigue qui lui vient d'un coup. C'est la grande excitation nerveuse qu'il a eue ce samedi. Ça l'a épuisé. Le lendemain, il est retourné au lycée et la vie reprend. La vie est toujours difficile pour les parents d'Alexis et la mère de Mathieu. La vie est dure. Le père d'Alexis ne travaille qu'à par intermittence, ce qui fait qu'il n'a pas toujours de l'argent. Sa mère fait le ménage, mais ne gagne pas grand-chose. Des fois, on ne la paye qu'en aliments ou avec de vieux vêtements. Elle ferait preuve de grande ingéniosité pour préparer les repas. Toujours trouver quelque chose de bourratif et de nourrissant. Elle tient aussi à ce qu'elle tient un repas équilibré. Elle le force à manger des fruits et des produits sucrés. Des fois, Alexis est gênée. Elle lui dit, si tu tombes malade, ce sera plus pire pour la famille que le prix d'un kilo de pommes. Elle veut aussi c'est qu'il soit bien habillé. Et elle vérifie ses vêtements. Elle veut qu'il reste propre, neuf le plus longtemps possible. Elle les frotte, les passe à la vapeur pour les leur redonner de la fraîcheur et regarde s'il ne manque pas de boutons. Pour les chaussures, aussi, elle fait attention. Sur les semelles, pour ne pas les user, le père colle un carton qui change toutes les semaines. Le carton vient de vieilles boîtes à chaussures. Lorsqu'il grandit, elle essaye de le rallonger ses pantalons en faisant attention à ce que ça ne se voie pas. Pour les chemises, elle retaille les chemises qu'on lui donne. Pour les sous-vêtements et chaussettes, elle fait tout pour que ça dure et les raccommode. Mais elle garde en réserve des sous-vêtements pour les visites médicales et le sport. Le lycée chez Cher. Il y a toujours quelque chose à acheter. Le gouvernement a beau dire que les cours sont gratuits à tous et que tout est gratuit, malheureusement les professeurs qui par mégalomanie obligent les élèves à toujours acheter plus de fournitures. Cahiers de ceci, de cela, fournitures, de peinture, règles de toutes sortes. Et des choses qui ne servent qu'une fois et qui coûtent cher. Quand tu avais besoin de tant de choses pour étudier. Pourquoi tous ces cahiers qui, pour certains, à la fin de l'année, n'auront servi que pour une dizaine de pages. Vêtements de sport, livres. Et oui, les livres officiels ne sont pas assez bien pour les professeurs. Il en faut d'autres. Plus cher et qui ont les mêmes programmes. Tous ces crayons, stylos, gommes, machines à calculer, mini-ordinateurs. On voit que les professeurs sont des fonctionnaires et qu'ils ont une bonne paye. Ils ne se rendent pas compte qu'ils crèvent le budget des gens avec ce qu'ils demandent. De devrait être interdit à un professeur de demander à ses élèves d'acheter toutes ces choses, et même quoi que ce soit. Mais non. Et puis un professeur a tous les droits, parce qu'il est sur-syndiqué, et qu'on ne peut rien, qu'il peut faire ce qu'il veut. Et il fait, lui, ce qu'il veut. Il faut bien qu'il fasse marcher aussi les marchands de fournitures scolaires. Ce qu'il y a de honteux, c'est que des représentants de fournitures de livres ou autres vont directement voir les professeurs dans leur classe et traitent avec eux. Et les professeurs traitent directement avec le fournisseur, sans être obligés d'avoir un intermédiaire dans le supérieur. Il va être interdit aux représentants ou autres d'entrer dans des établissements publics. Il ne passe pas de semaine où Alexis dise qu'il lui faut ceci ou cela. Un livre à acheter, un ticket de théâtre, ou pour aller voir une pièce classique, des vêtements de sport, etc., etc. Son père lui dit, tu vas nous mettre à la ruine. Au lieu d'acheter le livre, prends-le à la bibliothèque. Alexis lui dit, le prof veut qu'on l'achète, c'est pour qu'on l'ait constamment sur soi. Mon père lui dit, comme si un livre dans sa poche, ça pouvait aider à le comprendre. Encore un intello gauchiste. Sa mère lui dit, au lycée Henri IV, il lui dit, ça s'infiltre de partout. Et on lui achète son livre. Alexis a des difficultés, enfin, si l'on veut, parce qu'il n'a pas d'ordinateur et est obligé d'écrire à la main ses devoirs. Il dit à ses parents, ça ne fait pas bien. Son père lui dit, mais ce qui compte, c'est tes idées, les idées que tu as écrites. Alexis lui dit, écrire à la main, c'est pas si bien. Et pourquoi? Tu ne sais pas écrire? Tu écris mal? Non, j'écris bien. Eh bien alors? Et puis, ce ne sont que des devoirs. Les professeurs ne sont pas des employeurs. Ils oublient. En exigeant des choses, ils exagèrent tout de même. Tu sais bien faire des lettres. Et puis, c'est pas pour une entreprise, c'est pour un devoir. Et puis, s'il veut un ordinateur, il n'a qu'à te le payer. C'est toujours des problèmes qui n'en finissent pas. Malgré que Mme Poncet les aide, mais elle ne peut pas tout le temps se payer des choses. Elle donne une petite pension et il faut se débrouiller avec. Ils font ce qu'ils peuvent. Pour Mathieu, c'est encore pire parce qu'il n'a que sa mère qui a qu'un tout petit salaire. Et puis, ils n'ont personne pour les aider. Là, ils font ce qu'ils peuvent. S'ils ne peuvent pas, ils ne peuvent pas. Mathieu arrive malgré tout à être un très bon élève. Malgré qu'il lui manque des règles de toutes sortes, quelques crayons et livres. Ses vêtements sont un peu usés. Ce qui veut dire qu'on arrive malgré tout à un bon niveau sans être obligé d'avoir des tas de choses. vas être obligé de dire toujours oui à la dictature du toujours plus. Les professeurs n'ont qu'à acheter eux-mêmes ce qu'ils demandent aux élèves. Ainsi, qui n'a pas d'ordinateur, ça le force à écrire bien lisiblement, à bien attacher ses lettres. Il est seul de sa classe à écrire lisiblement. Et c'est une bonne chose. Le moins peut apporter le plus. Et les professeurs doivent s'en souvenir, de toujours crier au manque de moyens. Le manque de moyens permet de faire marcher son imagination, plutôt que de faire marcher sa carte ou son compte en banque. Des fois c'est très dur, lorsque le père d'Alexis est au chômage technique. Là, ils n'ont presque rien à manger. Le père est morose et reste à la maison. Lorsqu'il voit son fils étudier, il dit « Il ferait mieux, c'est de travailler. » Sa femme lui dit « Mais il travaille pour son avenir. » Son mari lui dit « Ça ne donne pas le pain au présent. » Dans ces moments-là, Alexis se sent gêné. Des fois, Gilbert l'invite de temps en temps pour faire des promenades l'après-midi. Va avec son ami et profite de ses journées sans honte. Gilbert, qui les aime bien, sait qu'ils ont des difficultés. Or, à chaque fois, il leur offre le restaurant. Nathalie est aussi avec eux, et Julien aussi. Le brave Julien, l'ami le plus intime de Gilbert. Julien est toujours avec lui. Ils sont complices, toujours tous les deux. Ce qui rend quelquefois Nathalie jalouse. Les jours passent. Au lycée, tout le monde sait que les garçons sortent avec Gilbert. Malgré que tout le monde sait qu'ils sont de familles pauvres. Ils sont très demandés à cause qu'ils sont amis de Gilbert. On les invite pour des soirées goûtées. Mais eux refusent poliment. C'est à cause de leur famille. Ils ne veulent pas que leurs parents fassent des histoires et les empêchent qu'ils aillent voir Gilbert. Alors ils disent non. On pense qu'ils refusent parce qu'ils sont amis de Gilbert et qu'ils prennent les autres pour des riens. mais on ne leur en veut pas trop. Les jours passent. Un jour, Madame Poncet a à son thé une de ses amies que vous connaissez, Madame Gramont. Elle est venue en tailleur rouge vif. Parce que c'est la mode, c'est la Judith qui a lancé cette mode. Madame Poncet trouve que ça fait vulgaire. Elle reste fidèle au noir. Elle ne se voit pas avec des tailleurs moulants, avec un grand décolleté et une jupe très courte. Non. Elle ne voudra jamais mettre ça. C'est bon pour les putes. Tout en prenant leur thé, Madame Gramont lui dit: c'est que votre petit protégé sort avec Gilbert Franblanc tous les dimanches. Vous devez être très intime avec les Franblancs. Votre fille et votre petite amie sort avec eux. C'est bien. Qui vous a dit ça? Madame Gramont lui dit: Brigitte, ma fille, qui elle n'est pas invitée. Madame Poncet lui dit: elle en a de la chance. Madame Gramont croit qu'elle se moque d'elle. Lui dit: nous sommes tout de même invités par les Condorcet. Madame Poncet soupire et dit: j'aimerais mieux que ma fille soit invitée par eux. Madame Gramont comprend qu'elle est sincère. Elle lui dit: je ne comprends pas pourquoi vous n'êtes pas contente que votre fille soit invitée chez les Franblancs. Le monde vous envie. Même les Grimaldi n'ont pas le droit de citer chez eux. Alors, c'est lui dit: je leur céderai bien leur place. Pour moi, ce sont des criminels. Je sais des choses sur eux. Et lesquelles? Je peux vous les dire, c'est terrible. Madame Gramont pense qu'elle ne sait rien. Elle lui dit: si c'est ça, je vais dire à ma fille de ne jamais accepter une invitation de ce genre, de ces gens-là. Les Condorcet sont des gens mieux. Et l'on sait qu'ils sont d'une vieille famille française, et non des maçons. Madame Poncet lui dit: vous avez tout à fait raison. C'est ce que je dis constamment à ma fille. Mais c'est une tête de mule. Le soir, lorsque sa fille vient au salon et toujours assise à la même place, près de la fenêtre, c'est bien pour lire. Elle lui demande: est-ce vrai qu'Alexis est invité chez Gilbert? Nathalie lui dit: oui, mais pas chez lui. Ils vont à la campagne. Sa mère lui dit: tu dis, ils vont, mais tu devrais dire plutôt, nous allons. Nathalie lui dit: oh, nous faisons rien de mal. Madame Poncet lui dit: pas besoin de faire du mal, puisque le mal est là, près de vous. Nathalie ouvre ses épaules et lui dit: vous êtes ridicule, mère. Sa mère lui dit: peut-être bien, mais ça finira mal, tout ça. Thank you. présenté dans la série L'écran radiophonique, un scénario original de Julien Jean-Pierre, La plante du diable, production mise en scène Julien Jean-Pierre.